Avant de lire dans la Bible les deux passages que j'ai choisis pour notre méditation de ce matin, je vous invite à écouter un texte écrit par Christian Bobin. La Bible, c'est un livre qui est fait de beaucoup de livres, et dans chacun d'eux, beaucoup de phrases, et dans chacune de ces phrases, beaucoup d'étoiles, d'oliviers, de fontaines, de petits ânes et de figuiers, de champs de blé et de poissons, et le vent, partout. Le mauve, le vent du soir, le rose de la brise matinale, le noir des grandes tempêtes. La Bible est le seul livre d'air, un déluge d'encre et de vent. Un livre impossible à tenir entre deux mains calmes pour une lecture sage, lointaine. Il s'envolerait aussitôt, éparpillerait le sable de ses phrases entre les doigts. On prend le vent entre ses mains et très vite on s'arrête, comme au début d'un amour. Merci Seigneur pour ta parole, transmise de génération en génération et parvenue jusqu'à nous, comme un flambeau de l'espérance dont nous sommes à présent les témoins et dont nous avons à rendre compte. Merci Seigneur de nous permettre de la recevoir, de laisser cette parole s'enraciner en nous et porter fruit. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Tout d'abord, un passage dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 8 à 16. Sur la sagesse de Dieu. J'annonce pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse du monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes, et que Dieu avait déjà choisie pour notre gloire avant que le monde existe. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas fait clouer le Seigneur de la gloire sur la croix. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui le concerne. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné. Et nous en parlons non pas avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont cet esprit. Après cette introduction sur la sagesse de Dieu, voici un passage qui l'exprime de manière déconcertante. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12, dans le sermon sur la montagne. Quand Jésus vit ses foules, il monta sur une colline et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à les enseigner en ces termes. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses enfants. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous, soyez heureux, une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Seigneur, ta parole est une lampe sur notre route, ta sagesse nous déconcerte, mais nous conduit. Parle-nous, éclaire-nous, conduis-nous. Amen. Je vous invite à chanter le psaume qui est indiqué sur le numéro 299, strophe 1, 2, 3, et nous reprendrons donc la première strophe que nous avons déjà chantée pour montrer vraiment que nous sommes bien à l'écoute de la parole. « Oh, parle-moi, Seigneur !» Êtes-vous heureux? Je ne parle pas de ce bonheur qui se trouve soi-disant dans les champs et qui n'en finit pas, à l'image de certains mirages, de filer à fur et à mesure qu'on essaie de l'approcher. Je parle d'un bonheur profond qui prend naissance dans la paix, dans l'harmonie intérieure. Un conte soufi raconte qu'un homme cherchait le chemin du bonheur. Il alla interroger le maître soufi. Celui-ci lui offrit du thé à la menthe, comme il se doit, prit le temps pour lui répondre et lui dit, c'est simple, dans un village qui se trouve juste de l'autre côté de la montagne, tu traverseras le village. Tu trouveras à la sortie, sur la gauche, une petite échoppe. Tu entreras et là, tu trouveras le bonheur. L'homme était un peu surpris de la simplicité de la chose. Il se dit, bon, allons chercher le bonheur puisqu'il m'attend dans ce petit hameau. Il escalada la montagne, descendit vers le petit village, le traversa, gagna l'échoppe à la sortie à gauche. Entra et là trouva un atelier poussiéreux avec des planches, des outils, des morceaux de fil de fer et part. Il ne comprit pas. Il était assez déçu, assez surpris. Il repartit, et il alla passer la nuit, parce qu'il faisait doux, à la Belle Étoile, pour méditer. Pendant la nuit, il entendit un joueur de luth, comme Luther. Luther jouait du luth. Les notes montaient dans l'espace, et il trouva la musique magnifique. Il marcha pour se rapprocher de ce musicien, et le vit, et vit son instrument entre ses mains, et tout à coup il comprit. Cet instrument était fait de morceaux de bois, du métal, de peu de choses en somme, mais bien agencé, il pouvait faire découvrir l'harmonie, la joie et le bonheur. Peut-être que dans nos vies, nous avons les éléments, parfois sous la poussière, qui nous permettent de, chaque jour, recréer un luth et de jouer notre instrument propre pour faire monter des notes et de trouver en nous-mêmes cette harmonie et cette paix. Ce matin, Jésus nous parle du bonheur. Et ce n'est pas n'importe où. Jésus a emmené ses disciples sur une colline, certes, mais d'abord dans une dépression. C'est un niveau exceptionnel sur notre globe terrestre. C'est un niveau qui est bien en dessous du niveau de la mer. Je trouve cela symbolique aussi. Nous qui sommes aussi en France spécialistes des antidépresseurs, que Jésus nous emmène dans une dépression comme s'il voulait visiter nos problèmes personnels, existentiels. Et là, il nous dit, bon, on va quand même prendre un peu de hauteur. Venez sur la colline. Et puis aussi, on va s'asseoir. Parce que quand on s'assied, on oublie un peu le corps, on oublie un peu nos épaules, notre fatigue, le poids de la vie. Et on va pouvoir voir les choses peut-être différemment, entrer dans une autre sagesse. Ce texte représente le début de l'enseignement de Jésus. Il est extrêmement important, ce sermon sur la montagne. Il est prononcé par Jésus en araméen. Et il est mémorisé par ses disciples, par les apôtres, qui vont le retranscrire par la suite. C'est vrai que nous avons l'habitude de travailler sur premièrement, deuxièmement, troisièmement, ou thèse, antithèse, synthèse, ça c'est notre manière de fonctionner. La manière sémite parle d'un début que l'on retrouve à la fin, d'un deuxième point que l'on retrouve en avant-dernier, et d'une construction qui est différente, mais qui est tout à fait mémorisable, parce que nous avons une transmission orale. On appelle cette transmission en chiasme. Mais on n'est pas dans une étude biblique. On est dans une méditation de réflexion. Bienheureux, heureux, en marche. Makarioi en grec est traduit de trois façons dans nos Bibles. Selon les versions, on a bienheureux. C'est peut-être celle que nous connaissons la mieux et qui a donné le mot béatitude. Ce mot béatitude me fait toujours penser au bouddhisme. Et là, je pense bien naturellement à Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui méditait régulièrement les béatitudes et qui disait qu'il y avait une profondeur qu'il retrouvait dans le bouddhisme et qui était un des textes les plus fondamentaux dans sa vie. Il disait aussi qu'il serait volontiers devenu chrétien s'il avait vu les chrétiens mieux vivre les béatitudes. Là, c'est un petit coup qu'il nous envoyait, une petite interpellation qu'il nous faisait. Mais pour moi, le mot béatitude me gêne un peu. On a l'impression qu'on entre dans un niveau d'extase où on est béat. Cela manque un peu de dynamisme. C'est un peu se retirer du monde pour essayer uniquement de se concentrer sur soi-même. Avec une vision qui me dérange aussi dans ce bienheureux, qui serait peut-être une attente un peu passive d'un au-delà, en disant « je suis certes dans la souffrance aujourd'hui, mais j'accomplis mon karma et je vivrai dans un monde céleste où j'aurai d'une certaine manière ma récompense. » Peut-être avec un certain dolorisme que nous réprouvons. Il faut souffrir pour s'accomplir. Je ne crois que ce serait un contresens absolu avec ce texte, ces premiers enseignements que Jésus nous délivre. Non, il s'agit plus radicalement d'un nouvel état d'esprit qui nous rappelle que nous sommes des chrétiens envoyés dans le monde, prêts à vivre un engagement à l'action dans ce monde présent, en marche. Et j'aime bien la traduction que donne Chouraki, en marche. En marche pour refuser l'injustice et la souffrance. En marche pour vivre le pardon et le partage. En marche pour bâtir un monde de paix. Oh, la récompense annoncée est sans doute assurément dans les promesses et dans l'amour du Père Céleste. Mais n'est-elle pas déjà présente au cœur même de l'engagement qui ouvre le regard et le cœur sur un nouvel épanouissement personnel aujourd'hui et maintenant? Théodore Monod ne s'y est pas trompé, lui qui était le responsable, l'initiateur du groupe des veilleurs, avec cette tradition de répéter chaque midi ce texte des béatitudes, et les veilleurs répartis partout dans le monde, chaque midi, disent discrètement, intérieurement, ce texte des béatitudes pour mieux le recevoir et le vivre. Je veux saluer d'ailleurs le pasteur ermite protestant Daniel Bourguet, qui maintenant a pris sa retraite et qui était président des veilleurs pendant un bon nombre d'années. Dans un monde où chacun veut paraître, et nous sortons des périodes des candidats au présidentiel avec beaucoup d'apparat médiatisé, chacun veut avoir son nom dans les médias, où le culte de l'individualisme, de l'autosatisfaction prédomine. N'est-il pas bon de retrouver le bonheur, de la douceur, de l'humilité de ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes et qui se confient à Dieu? Dans un monde où ceux qui sont tombés au bord du chemin sont abandonnés dans leurs larmes, considérés bien souvent par la société comme des improductifs, des perdants, des losers, des indésirables, des oubliés de la théologie de l'abondance. Ils ne doivent pas aimer Dieu s'ils ont des problèmes, disent certains avec mépris. N'est-il pas bon de savoir que Dieu s'arrête pour leur dire qu'il les aime et qu'il veut les consoler, semblable à Jésus qui s'arrête pour rencontrer au bord du chemin l'aveugle de naissance, Bartimée, et qui lui rend la joie de vivre. Semblable à Jésus qui rejoint les endeuillés après la mort de Lazare et qui commence par pleurer avec eux. Dans un monde de compromis, de magouilles, n'est-il pas bon que soient magnifiés les cœurs purs, des hommes et des femmes qui se tournent vers le Christ, qui veulent vivre en se sachant pécheurs et pardonnés par Dieu, avec l'assurance qu'ils verront la lumière de l'amour de Dieu éclairer leur chemin et leur vie. Dans un monde de violence où domine la loi du plus fort, aussi bien dans la politique, dans l'économie, dans la vie sociale, parfois même dans les couples, mais aussi dans les religions, n'est-il pas bon d'entendre Dieu proclamer que sont vraiment ses enfants, ceux qui construisent un monde meilleur, qui aident à trouver des issues aux conflits, à bâtir un monde de paix, à rapprocher les êtres? Dans un monde du donnant-donnant, où les droits sont élevés comme des dus, aux dépens souvent des devoirs et du sens des responsabilités. Dans un monde où l'homme fait de plus en plus intervenir le judiciaire pour contraindre l'autre et le confondre, n'est-il pas bon d'entendre qu'il existe cet appel à rester habité par la compassion, par le sens de l'autre, par la volonté de vivre une dimension intelligente du pardon, afin que ce monde change et ne soit pas enfermé dans de vaines rancunes ou de sanglantes vengeances. Cette mention des béatitudes renvoie d'ailleurs à la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu manifeste sa compassion à ceux qui ont compassion des autres. Dans ce monde d'injustice et de persécution qui connaît aujourd'hui plus que jamais ces martyrs pour la foi, comme nous le rappelle tristement l'association Portes Ouvertes, qui nous dit qu'il n'y a jamais eu autant de martyrs chrétiens que dans cette période, et qui soutient les familles des chrétiens, de pasteurs, de prêtres. N'est-il pas bon aussi que le Seigneur donne l'assurance que pour eux, la mort n'est pas une fin, mais une lumière qui s'éteint lorsque le jour se lève, que leurs œuvres les suivent et qu'ils sont accueillis dans la lumière et la joie de Dieu. Bienheureux, heureux, en marche. La deuxième manière dont on traduit ce texte, parler de bienheureux, en marche avec Chouraki, la troisième manière, ce serait heureux, plus dépouillé, plus simple, mais qui correspond sans doute mieux à l'araméen. Ashrei, c'est le mot que prononçait Jésus. Ashrei, c'est aussi le mot qu'on trouve dans le tout début, dans le psaume 1. Ashrei, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Heureux. Il reflète à la fois une force de caractère, le courage et la droiture, la profondeur de l'être. Il y a tout cela dans ce mot Ashrei. Il renvoie à l'Esprit Saint dont l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Galates qu'il vient nous habiter et prend nuit et produit en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Qui n'a pas envie d'être heureux ? Non pas un de ces bonheurs égoïstes au mépris des autres, un bonheur insatiable, toujours plus vide de sens, pas cet orgueil et cette soif de puissance qui isolent et qui rendent vaniteux. Non, un bonheur tissé de simplicité, de bienveillance, d'esprit fraternel, de joie partagée. Comme nous avons partagé simplement ce café ce matin en arrivant. Des joies partagées qui sont simples dans le quotidien, avec une voisine acariâtre dont on dit qu'est-ce qu'elle a mauvais caractère et à qui on offre un sourire et on dit « Vous voulez un morceau de gâteau ?» Et on voit tout à coup que cette personne change. Le bonheur est contagieux. Vous savez, dans les actualités que nous entendons à la télévision, à la radio, nous avons l'impression que tout va toujours mal partout parce que nous entendons les mauvaises nouvelles. Et pourtant, j'aime beaucoup Michel Serres, qu'on écoute le dimanche matin, ce philosophe, qui nous rappelle que nous sommes dans la période, je parlais des persécutions des chrétiens, c'est vrai, mais où nous n'avons jamais connu une aussi grande paix par rapport aux guerres et aux destructions, et qu'on parlera de cette période comme de la période de paix, longue paix. Importance de construire ce rayonnement de paix autour de nous, de laisser nous habiter, et être contagieux, et de nous rappeler qu'un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais qu'une forêt qui pousse, pousse en silence, et que cette forêt pousse partout dans le monde, à travers des hommes et des femmes de bonne volonté, habités par cet état d'esprit. Ô Jésus, oui, que ma joie demeure, écrivait Jean-Sébastien Bach. Et si les béatitudes offraient le secret de ce vrai bonheur. Bienheureux, heureux, en marche. Êtes-vous heureux ? Je ne parle pas de ce bonheur qui se trouve soi-disant dans les champs et qui n'en finit pas, à l'image de certains mirages de filets à fur et à mesure qu'on essaie de l'approcher. Vous avez remarqué, je suis en train de faire un chiasme. Le début revient à la fin. Je veux parler d'un bonheur qui s'apparente plus à une paix intérieure, à une joie secrète, comme ces sources qui sourdent sous les frondaisons et qui deviennent des rivières dans le secret des bois. Je pense à ce bonheur que le sage Rabindranath Tagore décrit si bien. Je dormais et je rêvais que la vie était joie. Je m'éveillais, je vis que la vie était service. Je servis et je découvris que le service était joie. Amen.